les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour sa dernière émission du mois de novembre. Et on est un petit peu en retard à l'antenne. On a eu un souci technique pour ne rien vous cacher. Non, c'est pas nous qui étions en retard à l'émission. Pas du tout. On était largement en avance. C'est la technique qui nous a joué un petit tour. Voilà. Merci à JC qui est en train de sortir du studio, qui est venu nous dépanner. Donc, émission un petit peu écourtée ce soir. On va être à l'antenne que trois quarts d'heure au lieu d'une heure. Bah, on est désolé, mais enfin, voilà quoi. Donc, ce soir, une émission qui va être consacrée en grande partie à la violence faite aux femmes, puisqu'hier, c'était la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Et vous n'êtes pas sans savoir, comme dirait l'autre, qu'il y a eu pas mal de rassemblements samedi dernier, dont un à Évreux qui a rassemblé 200 personnes, m'a-t-on dit. Moi, j'étais à Paris, donc je ne pouvais pas être à Évreux en même temps. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de manifestations à droite et à gauche. Et tant mieux, parce que le problème de la violence est aux femmes, de la violence faite aux femmes reste un problème d'atteinte aux droits fondamentaux extrêmement important dans notre société et sur lequel il faut faire évoluer la réglementation et l'action des États. Donc, pour vous en parler ce soir avec moi, il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Christian, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.
Très longtemps.
Il y a Sabine.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Donc, vous voyez, on est en force. On est en force, mais on a moins de temps. Voilà.
Si, mais le temps, ça se prend.
Le temps, ça se prend. Ah ben non, il faudra rendre l'antenne quand même à 8 heures pour notre ami du laboratoire. Ouais. Ça ne va rien changer. Donc, voilà. Donc, pour vous parler de vous faire un petit tableau général du problème des violences faites aux femmes, c'est, m'a-t-on dit, Christian qui va vous en dire quelques mots.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un texte qui a été écrit par Anna Blus, qui est chargée de recherche sur l'Europe. En ce moment, de courageuses femmes initient un changement dans toute l'Europe en menant un combat pour que leur gouvernement adopte des lois basant la définition du viol sur l'absence de consentement plutôt que sur l'utilisation de la force et pour qu'ils améliorent la façon dont le système judiciaire traite les crimes de vol. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, rendant hommage aux femmes qui continuent de se battre pour défendre leurs droits incontestables à l'autonomie quant à leur propre corps. Le nombre de femmes violées en Europe, encore actuellement, est scandaleusement élevé. Dans l'Union européenne, une femme sur 20 âgée de plus de 15 ans a été violée et une sur 10 a subi une forme ou une autre de violence sexuelle. Pour commencer, un rapport sexuel sans consentement est un viol. C'est aussi simple que cela. Il est surprenant de constater que cette simple vérité ne transparaît pas dans la législation de la plupart des pays européens. Amnesty International a étudié la législation relative au viol de 31 pays d'Europe et 8 d'entre eux seulement ont adopté des lois définissant le viol comme un rapport sexuel sans consentement. Tous les autres ont basé leur définition du viol sur l'usage de la force, la menace de l'usage de la force ou la contrainte ou l'incapacité de la victime à se défendre. Cependant, les choses commencent à bouger, pays par pays. Cette année, l'Islande et la Suède sont devenus la 7e et 8e pays d'Europe à adopter une nouvelle loi basant la définition du viol sur l'absence de consentement. Ces victoires ne sont pas dues au hasard. Elles sont l'aboutissement de nombreuses années de dur labeur menées par des militantes qui ont revendiqué leur droit d'être protégées contre la violence sexuelle. Ces changements ont été obtenus grâce à la mobilisation d'innombrables femmes qui sont trop souvent trahies par les systèmes judiciaires qui refusent de reconnaître les effets dévastateurs des crimes qu'elles ont subis et qui ne leur accordent pas de réparation. En Suède, les organisations de défense des droits des femmes et les personnes militant pour la défense de ces droits ont pendant plus de 10 années mené campagne pour obtenir cette réforme de la législation. En 2013, l'acquittement de 3 jeunes hommes accusés d'avoir violé une jeune fille de 15 ans avec une bouteille de vin jusqu'à ce qu'elle saigne, a déclenché la formation d'un nouveau mouvement national baptisé FATA. Comprends-le, hein, en suédois. Son message s'est progressivement propagé grâce à des actions de campagne et de sensibilisation du public. Il a fallu attendre 5 ans, mais la législation suédoise reconnaît enfin, à présent, qu'un rapport sexuel sans consentement constitue un viol. L'Espagne, le Portugal et le Danemark seront peut-être les prochains pays à reconnaître dans leur droit qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. Leurs gouvernements ont tous publiquement déclaré être disposés à discuter d'une telle révision de la définition juridique du viol. Là encore, ces avancées résultent du combat qu'ont mené les femmes en faveur de ce changement. En Espagne, des millions de femmes sont descendues dans la rue le 8 mars 2018 pour défendre tout un ensemble de causes liées aux droits des femmes, notamment le droit de ne pas subir de viol. La fête d'Ir de la Menada, où 5 hommes ont été déclarés coupables d'abus sexuels et non de viol, a également déclenché une vague de manifestations dans tout le pays un mois plus tard. La vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, a annoncé en juillet une réforme du code pénal pour introduire la notion de consentement sexuel explicite. Les femmes au Portugal ont été révoltées par la décision rendue par un tribunal dans une autre affaire qui a eu un grand retentissement. 2 hommes déclarés coupables d'abus sexuels sur une personne incapable d'opposer une résistance ont été condamnés à une peine de prison avec sursis. Cette affaire concerne l'agression qu'a subie une femme dans les toilettes d'un bar et durant laquelle elle a plusieurs fois perdu connaissance. Les manifestations et les débats dans les médias qui ont suivi ont montré que les femmes refusent de se taire quand leurs droits sont bafoués. Le Danemark a indiqué qu'il était prêt à envisager l'adoption d'une loi sur le viol fondée sur le consentement à la suite des appels lancés par des militants et des victimes. L'étendue de cette réforme fait encore l'objet de discussions. Mais ce dimanche, les Danoises vont manifester dans 4 villes pour réclamer une modification de la législation et une meilleure protection contre le viol. En Norvège, au cours des 5 dernières années, un nombre extraordinaire de lycéens de tous les genres ont participé à la campagne contre le viol. Mais cette année, les représentants politiques les ont trahis en rejetant une proposition visant à adopter une loi basée sur la notion de consentement. Malgré tout, la tendance globale qui se dessine va dans le bon sens. Les gouvernements européens ne peuvent pas continuer à ne pas tenir compte des appels lancés par les femmes qui réclament l'autonomie sexuelle. Si les femmes mettent campagne contre le viol depuis de nombreuses années, le mouvement MeToo a permis d'élargir l'espace de dialogue, donnant encore plus de poids à leur voix. Les récentes manifestations et la campagne en ligne menée en Irlande à la suite du procès pour viol au cours duquel le string d'une adolescente a été montré au juré constituent un autre exemple encore d'action et de mouvement de solidarité alimenté par la colère des femmes. Dans les heures qui ont suivi la publication de cette affaire dans les médias, des centaines de femmes ont posté des images de leurs sous-vêtements sur les réseaux sociaux, tweetant « This is not consent » pour exprimer leur opposition au blâme rejeté sur la victime. En Irlande du Nord, l'acquittement de 4 joueurs de rugby de l'Ulster accusés de viol et d'autres infractions sexuelles, qui a été largement relayé dans les médias, a donné lieu à des débats dans tout le pays sur le bien-fondé des procédures judiciaires et le traitement réservé aux plaignantes. Les manifestations qui ont eu lieu à travers le pays ont conduit à un examen indépendant du traitement des cas de violence sexuelle et de celui réservé aux plaignantes. Ces recommandations préliminaires insistent sur le fait qu'il est important de combattre les idées fausses au sujet du viol et d'octroyer aux victimes une assistance juridique. Pour de nombreuses victimes de violences sexuelles, il est extrêmement difficile de franchir le pas qui consiste à parler de ce qu'elles ont vécu et à surmonter la stigmatisation qui reste attachée au viol ainsi que la honte et les menaces. Leur courage ne doit pas être sous-estimé. Le récit de celles qui ont subi est d'une importance cruciale pour faire comprendre aux décideurs politiques que l'absence de consentement doit être reconnue juridiquement et dans la pratique comme caractérisant le viol et qu'il faut mettre un terme à l'impunité. La Convention d'Istanbul, traité relatif aux droits humains ratifié par la majorité des pays européens, oblige les États à établir en tant qu'infraction pénale tous les actes de nature sexuelle non consentis. La réforme de la législation ne va pas éliminer le viol, mais il s'agit d'une étape indispensable. Il s'agit pour les États d'une mesure facile à réaliser et concrète qui véhicule un message très fort quant à la société au sein de laquelle nous voulons vivre. Une société sans viol, respectant et valorisant l'autonomie sexuelle et l'intégrité physique de toute personne.
Bien, donc ça c'était la présentation générale des positions d'Amnesty par rapport à la violence faite aux femmes, mais qui reprennent en fait des positions tout à fait évidentes. Hein. Ça tombe sous le bon sens, comme dirait l'autre. Moi, je vais faire une intervention. Alors, vu qu'on va manquer de temps, je vais considérablement l'abréger. Je vais simplement vous faire un petit rappel historique sur les textes les plus récents, parce que bien sûr, l'action contre la violence faite aux femmes au cours des millénaires a beaucoup pris de temps et pour se manifester, mais a fini par apparaître dans le droit international. Et donc, je vais vous citer simplement les trois derniers textes qui ont été adoptés. Alors, celui de 1979, qui a été adopté par l'ONU et qui s'appelle la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui ne traitait pas que du problème de la violence, mais sous l'aspect de la discrimination, qui abordait cette question-là. C'est le premier texte international qui a été signé par l'ONU. Le deuxième, qui date de 1994, là, c'est une résolution directement centrée sur le sujet, qui s'appelle, c'est la résolution pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, donc son titre est suffisamment explicite. Et la dernière, historiquement parlant, la plus récente, elle date quand même de 2011, hein, donc elle n'est pas si récente que ça, c'est la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.
Et ça veut dire que les résolutions qui ont été prises, elles ne sont pas suivies ? S'il faut refaire des lois à chaque fois
Bien sûr, après charge aux États, tu as raison, les charges aux États, après, effectivement, d'intégrer ces résolutions dans leurs droits, et c'est là où, dans leurs droits nationaux. Et c'est là où tout le problème se pose, bien évidemment. Ça, ce n'est pas spécifique à la violence vis-à-vis des femmes, on retrouve ça partout. Hein. Mais effectivement, c'est indispensable. Alors bon, je m'étais servi d'un gros rapport d'Amnesty en prévision de l'émission, mais que je vais laisser tomber, de 80 pages, pour ne rien vous cacher, qui s'appelle « Pourquoi les droits de... Pour que les droits deviennent... Voilà, pour que les droits deviennent réalité, et les États ont le devoir de combattre la violence faite aux femmes ». C'est le titre du rapport. Alors juste un petit commentaire, ce rapport a été lancé en juin 2004, parce qu'en fait, la campagne pour l'élimination de la violence faite aux femmes, Amnesty s'en occupe officiellement depuis l'année 2004. On n'a pas attendu que ça devienne, que ça fasse la une des médias. Et c'est une campagne permanente d'Amnesty dans le temps. Alors ce rapport dit beaucoup de choses. Il invoque la responsabilité générale des États, comme vient de dire Claire Lys, par rapport à leur propre législation pour mettre leurs droits en conformité avec les textes internationaux. Mais bon, il aborde quelques points, donc je vais simplement vous lire quelques phrases. Le rapport dit « Il apparaît sans ambiguïté qu'en vertu du droit international, l'État est responsable des atteintes aux droits humains perpétrées par des acteurs non étatiques ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les crimes sont commis par des gens qui ne sont pas directement du ressort de l'État, l'État en question est responsable de ce qui se passe chez lui. Donc il ne peut pas se cacher derrière le fait que ce n'est pas lui qui a commis le délit. Bien sûr qu'il est quand même responsable. Bon, après, il y a effectivement aussi sur la violence domestique, parce qu'il avait été dit, oui, mais c'est compliqué, parce que beaucoup de féminicides, hein, bien évidemment, sont des crimes commis dans le lieu du domicile conjugal, et que l'État est impuissant, ou enfin, peut difficilement intervenir. Il est dit dans le rapport que ce n'est pas du tout une raison pour les États, ce n'est pas une clause juridique à invoquer pour que les États n'interviennent pas dans ce domaine-là. Et que donc la violence dans le domaine domestique est aussi une responsabilité de l'État, et que l'État doit mettre les moyens, mais ça je pense que Christian va vous en reparler tout à l'heure quand on va parler de l'Espagne, l'État doit mettre en application des moyens suffisants pour que même dans la sphère domestique, les féminicides régressent. Et donc, bon, je vais m'arrêter là. Le rapport définit une notion qui m'a aussi paru intéressante comme piste d'action. Il emploie les quatre termes suivants pour donc lutter contre la violence faite aux femmes: respecter, protéger, concrétiser, promouvoir. Alors ça veut dire quoi? Respecter, respecter effectivement le droit international et la personne de la femme comme un être humain à part entière. Ça, c'est une tautologie, comme on dit, hein, c'est une porte ouverte. Mais il y a encore certains qui pensent que la femme n'est pas tout à fait l'égale de l'homme, hein, mesdames.
Comment?
Oui, il y a certains qui le disent. Protéger, la responsabilité de l'État dans... La responsabilité de l'État, comme on vient de dire, l'État a la responsabilité dans toutes les sphères, y compris la sphère privée, de mettre tout en œuvre pour protéger les femmes de violence. Concrétiser, mettre en place effectivement les moyens d'action justice, police, formation de la police, formation du milieu médical, pour que les femmes victimes puissent être correctement prises en compte, soignées et, disons, permettent de l'enfer dans lequel elles vivent. Et enfin, promouvoir, et ça c'est quelque chose qui pour nous est important, promouvoir, c'est éduquer les gens, effectivement, pour leur faire comprendre que non, on n'a aucun droit en tant qu'homme d'être violent vis-à-vis d'une femme, quelles que soient les circonstances. Voilà, donc ça c'est un résumé très 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 succinct de ce gros rapport. Et je terminerai juste avant qu'on fasse une petite pause musicale en citant quelqu'un que j'aime bien et dont je m'intéresse de plus en plus aux écrits, j'ai peut-être déjà cité, qui s'appelle Albert Camus. Et dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, il a dit cette phrase fondamentale, quand on est, par rapport à toute forme de violence dans la société, quand on est un être humain, on se retient. Un petit peu de musique.
Sur sa gondole de Venise, Manu se laisse glisser au fil de l'eau. Le long des canaux, il cherche sa mie. Il l'aperçoit au bout de la rue, embrumée. Il s'approche de son oreille pour lui susurrer des mots d'amour.
Écoute, baby.
Emprisonné dans de l'incertitude, tu te noies dans les mailles de son fil et de son sourire.
Elle va te déchirer ton ben, elle va te dépouiller ton cœur. Si tu lui murmures, je t'aime, tu nourriras ton malheur, son malheur, ton malheur, son malheur.
Son lot de malheur, l'eau.
De retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'entendre Trio, un homme qui aime les femmes. C'était une chanson de circonstance. Voilà. Et donc, je crois que Sabine a quelques mots à vous dire.
Oui, sur les droits des femmes et discrimination envers les femmes. Donc, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, il paraît. Alors, pourquoi parler plus spécifiquement des droits des femmes ? Parce que, contrairement aux engagements pris, aucun État n'a encore complètement traduit dans les faits ni la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ni la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ni la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul. Aussi, s'appuyant sur ces textes essentiels, Amnesty International s'est engagé à soutenir la lutte des femmes pour leurs droits fondamentaux dans le monde entier. Chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des milliers de femmes et de jeunes filles sont victimes d'humiliations, de privations, de harcèlement, de viols, de violences, de féminicides, de traitements inhumains et dégradants perpétrés au nom de traditions ou de lois injustes. Les meurtres de femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques et illustrent de façon la plus criante la discrimination profondément ancrée et admise dans certaines cultures à l'encontre des femmes et des filles. La plupart du temps, ils sont commis en toute impunité du fait de l'acceptation largement répandue de cette pratique et des statuts juridiques. Les mariages précoces et forcés volent leur enfance à des milliers de jeunes filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées, à des situations de profonde détresse. L'interdiction absolue ou l'extrême restriction de l'interruption volontaire de grossesse ôte la possibilité de choisir d'avoir ou non un enfant et oblige les femmes à recourir à des avortements illégaux et risqués pour leur vie. Dans certains pays, suite à une fausse couche, des femmes sont jetées en prison parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir avorté. Plus de 200 millions de femmes ont été victimes de mutilations génitales féminines. Les femmes qui se battent pour les droits, droits des femmes ou droits humains en général, sont souvent la cible, plus encore que les hommes, d'une répression accrue. Nous nous mobilisons ainsi pour défendre ces femmes défenseuses des droits humains. Voilà. Donc, c'est à tous les niveaux. Et quand on voit ce qu'a donné le Grenelle, même au niveau de la violence domestique, il y a quand même encore des progrès.
Il y a des progrès à faire, effectivement. Bon, on n'aura pas le temps de préparer une petite intervention en conclusion. On n'aura pas trop le temps de vous le dire. Mais ce qui a été décidé au niveau de. Enfin, ce qui a été annoncé par le gouvernement pour lutter contre la violence faite aux femmes, est déjà catalogué par les associations qui s'occupent de la question, de largement insuffisant.
C'est la mention générale pour ce qu'ils font de toute façon.
Voilà. Non, je sais que Claire-Lise, elle attend pour vous parler. Elle va vous parler dans quelques minutes de ce qui se passe aussi ici à Évreux.
Voilà. Qui
représente aussi une autre forme de violence. Mais je crois que Françoise avait aussi quelques infos à vous donner sur la violence faite aux femmes.
Oui, alors j'avais des infos que vous pouvez savoir peut-être, mais qu'est-ce que la violence en ligne à l'encontre des femmes ? Vous n'avez jamais entendu parler du doxing. Alors, vous êtes au bon endroit. Voici 6 choses que vous devriez savoir au sujet de la violence en ligne. La violence en ligne est devenue un phénomène par trop courant, d'autant plus que si vous êtes une femme issue d'une minorité raciale, ethnique ou religieuse, si vous êtes handicapée ou lesbienne, bisexuelle ou trans, ou toute combinaison de ces caractéristiques. Ce type de violence crée un environnement en ligne hostile, visant à couvrir des femmes de honte, à les intimider, à les rabaisser. Toutes les formes de violence ne constituent pas systématiquement une infraction, mais elles ont toujours un impact sur les droits des femmes. Dans le cadre d'une enquête qu'a menée récemment Amnesty et menée dans 8 pays, 23% des femmes sondées, soit près d'un quart, ont indiqué avoir fait l'objet d'injures ou de harcèlement en ligne. Quels sont les différents types de violences en ligne et qu'est-ce que le doxing ? Vous allez voir la suite. La violence en ligne à l'encontre des femmes, qui peut prendre bien des formes, est une extension, en fait, des violences faites aux femmes dans la vie réelle. Elle peut comprendre des menaces directes et indirectes de violence, comme des menaces physiques ou sexuelles. Parmi les femmes sondées ayant été victimes de violences en ligne, 26% ont indiqué avoir été menacées, directement ou indirectement, de violences physiques ou sexuelles. Parfois, ces menaces quittent rapidement le monde virtuel. Pamela Merritt, militante et blogueuse américaine, a reçu des centaines de menaces en ligne. J'ai fini par accepter le fait que je suis prête à mourir pour mon travail. C'est une éventualité. Lorsque vous recevez 200 menaces de mort, il suffit d'une seule personne qui veuille vraiment vous tuer. Les contenus sexistes, racistes, homophobes ou autres visent certaines identités, de même que les contenus destinés à rabaisser, humilier ou discréditer quelqu'un. Diane Abbott, parlementaire britannique, explique que les injures qu'elle reçoit visent non seulement son genre, mais aussi sa couleur de peau. Des gens nous envoient des centaines de courriels en employant le terme « négresse ». Voilà le genre de réaction que nous avons. C'est très raciste et sexiste. Ils parlent de mon apparence physique en des termes qu'ils n'utiliseraient pas pour un homme. On m'attaque en tant que responsable politique, à la fois parce que je suis une femme et parce que je suis noire. Le harcèlement en ligne implique une ou plusieurs personnes travaillant ensemble afin de prendre une femme pour cible en lui envoyant des messages ou des images insultantes sur une courte durée ou de façon coordonnée dans le but de l'humilier ou de l'ébranler. Une femme politique britannique, à l'origine de la campagne violence contre les femmes en ligne, a expliqué avoir été attaquée en ligne après une vidéo de son intervention au Parlement européen. C'était un torrent de commentaires et d'insultes haineux, racistes et sexistes. Par la suite, elle a découvert que cette vidéo était hébergée par un site néo-nazi. J'étais sur un site néo-nazi et les abonnés étaient incités à m'attaquer en masse sur YouTube et Twitter. Il y a aussi le doxing, qui consiste à diffuser en ligne des documents ou des informations personnelles concernant une personne en particulier sans son consentement. Cela peut inclure l'adresse de la personne, son véritable nom, le nom des enfants, son numéro de téléphone ou son adresse électronique. Et c'est vraiment une atteinte à la vie privée. Bon, donc, il faut faire très attention à ces problèmes de harcèlement en ligne. Voilà, je passe la parole à Christian sur l'Espagne.
Merci Françoise. Alors, je vais essayer d'être très bref, parce que Claire-Lise a des choses très intéressantes à nous dire et que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc l'Espagne, c'est un pays que j'aime beaucoup, où je vais très souvent. Et l'Espagne, c'est un pays qui a eu la réputation d'être assez machiste. Et je ne pense pas qu'on va me contredire là-dessus. À cause de quand même quelques décennies de franquisme, entre autres. Avec le retour de la démocratie, il y a eu quand même un changement dans l'attitude générale des gens. Et puis, il y a eu un événement tragique en 1999 qui a été le fait qu'un homme a arrosé d'essence sa femme avant d'y mettre le feu. Tout ça parce qu'elle avait osé parler de violence à la radio. Donc à partir de là, des lois sont nées qui ont... Le but était de protéger les femmes. Et la première mesure prise a consisté à médiatiser à outrance tout féminicide. Donc, les maires des communes ont eu comme consigne, dès qu'il y avait un meurtre dans leur ville, d'organiser immédiatement une manifestation devant la mairie de protestation. Puis, il y a eu des lois qui sont arrivées. Il y a eu l'obligation de former la police pour recueillir les plaintes de façon sérieuse, les juges, le corps médical aussi, qui devait signaler les violences. Tout ça, ça a débouché, donc c'était à l'origine par un gouvernement de droite, d'Aznar. Et quelques années plus tard, en 2004, c'est Zapatero qui a établi d'autres lois encore plus sévères. Donc il y a eu la création de tribunaux dont le seul rôle était de s'occuper justement des violences faites aux femmes. Il y en a en principe 106 à l'heure actuelle. Bon, ça, quelques unités près. Deuxièmement, l'obligation pour les hommes violents, reconnus violents, de porter un bracelet électronique. Donc, interdiction d'approcher leur femme ou leur ex-femme ou ex-compagne. Et j'en oublie une importante. Donc toutes ces mesures-là ont été prises au sérieux. Et oui, voilà, l'obligation de recueillir les plaintes. Alors, effectivement, quand on regarde les chiffres, on dit cette année, il y a eu environ 180 000 plaintes pour violence en Espagne. Alors, on va dire c'est énorme, c'est beaucoup plus qu'en France. Alors, il faut savoir qu'en France, on considère qu'il y a 14 ou 15% seulement des femmes qui portent plainte. Et les conséquences, eh bien, on a vu quand même le nombre de féminicides diminuer considérablement. Et quand on regarde les chiffres, je ne vais pas vous les lire tous, parce que c'est si l'on fait un ratio entre la population et le nombre de féminicides, ben l'Espagne est tout à fait en queue de peloton, avec, pardon, je me trompe de page, avec l'Italie, la Lituanie et puis la Slovénie, où le nombre de féminicides est en diminution flagrante. Voilà. Donc moi, j'attends avec impatience de telles mesures en France.
Mais pour que ça se concrétise, il faudrait y mettre un peu plus de moyens que ce qui est décidé à l'heure actuelle. Parce que ça coûte de l'argent quand même.
Ça coûte de l'argent. Alors j'ai cru entendre dans les propositions du gouvernement hier une allocation de 385 millions. Et j'ai entendu aussi les protestations disant que ça existait déjà et qu'il faudrait beaucoup plus que cela.
Tout à fait. Je crois que Claire Lise, donc, qui est restée bien sage jusqu'à présent, mais je pense qu'elle a un petit peu, énervée, elle a des choses qui l'énervent un peu à vous dire.
Alors, bonsoir, je vais vous parler de ce qui se passe sur Évreux, mais partout en France. Souvent, je prends la parole pour vous parler effectivement de la situation des personnes qui sont migrantes, qu'on dit migrantes, de gens qui arrivent pour demander asile, ou qui sont en situation qui ont été déboutés de l'asile et qui sont en recherche de régularisation. Dans ces personnes, de plus en plus souvent, on constate, et on en a fait le constat dernièrement, puisqu'on s'est réunis avec le réseau d'éducation sans frontières, le CFED Asti d'Évreux, Amnesty, des gens aussi d'autres associations, pour faire le constat de ce qui se passe en ce moment à Évreux, d'une très grande précarisation de la situation de femmes avec enfants qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Donc je vais vous expliquer, il y a des personnes qui arrivent, qui fuient certains pays comme par exemple la Guinée ou des pays d'Afrique pour protéger leurs enfants. Alors ils arrivent avec deux, trois enfants, dont des petites filles, pour les protéger de l'excision ou des mariages forcés. Ils se font tout un périple. Donc, dans le périple, il faut échapper au viol, à l'esclavagisme dans certains pays du Maghreb et la Libye. Enfin, il faut passer la Méditerranée si on arrive à survivre. On arrive en Europe pour demander asile. Bon, on peut être dubliné, je vous ai déjà expliqué. C'est que si on arrive pour demander asile avec un passeport d'emprunt et qu'on a laissé ses empreintes dans un consulat d'un pays européen, on est obligé de demander asile dans ce pays européen-là. Donc, on se retrouve, si on arrive en France et qu'on a laissé malheureusement ses empreintes dans le consulat d'Italie, du Portugal, de Lettonie, de ne sais où, puisque de toute façon, la France n'accorde pas de visa pour venir en France. Donc, on en prend là ailleurs et elle se retrouve en situation de demandeur d'asile dubliné. Donc, dubliné, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas demander asile. Donc, ils sont... S'ils fuient Dublin, ils se retrouvent à la rue puisqu'ils essayent d'échapper pour ne pas être pris par la police, pour ne pas être renvoyés d'office vers les pays où ils ne veulent pas aller, dont ils ne parlent pas la langue, donc qu'ils n'ont pas choisi, où ils n'ont pas choisi d'aller. Donc, ils se retrouvent sans possibilité d'hébergement. Il y a aussi les gens qui sont en procédure normale, mais dont la demande d'asile a été rejetée. Et on sait qu'une fois que la demande d'asile est rejetée, 30 jours après, qu'il y ait des enfants ou pas, ils se retrouvent à la rue. C'est-à-dire qu'une fois que la Cour nationale du droit d'asile a dit non, votre demande est rejetée, 30 jours, jour pour jour, après, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait une solution ou pas de solution, les CADA mettent les familles à la rue. C'est ce qui est arrivé à Sofia. Elle devait être mise à la rue le 23 novembre. Elle s'est retrouvée à la rue avec 4 enfants, donc le CADA de Vernon l'a sorti, le 22 novembre, elle s'est retrouvée à la rue avec 4 enfants. Donc, avec 4 enfants, il n'y avait même pas de place à la mise à l'abri. La mala, c'est la mise à l'abri pour la nuit. Donc, on a essayé de s'organiser pour lui trouver une place. Et dès le lendemain, elle se retrouve, comme d'autres, à la mala. Donc, la mala, c'est ce qu'il y a quand il n'y a plus rien. C'est la mise à l'abri la nuit, pour la nuit. Mais ces femmes, parfois avec des bébés de 6 semaines à la mala, bébés de 20 mois à la mala, enfants de 3 ans, de 2 ans, enfin, on a compté quand même, donc la mala à Évreux, effectivement, c'est le 115 qu'ils gèrent. Ils ont mis en place une nouvelle structure avec plusieurs chambres, des chambres de 12 à 15 lits par chambre. Donc, tout ce petit monde, sans petit rideau de protection, sans, pour protéger l'intimité, avec des bébés qui pleurent, qui ont faim, qui ont peur. Pas d'endroit pour poser ses affaires pour ces femmes. C'est-à-dire qu'elles sont mises à l'abri à partir le soir. Elles peuvent rentrer à 18h30 à la mala. À 20h, c'est fermé. On ne peut plus sortir pour aller chercher à manger à la maraude. Et ensuite, on est sur place. Et le lendemain matin, tout le monde est mis à la rue à 9h. Donc, en semaine, ils peuvent aller à accueil-service, par exemple, dans des structures d'accueil, comme la Passagère à la Madeleine, ou accueil-service qui est plus avenue Foch, je me trompe toujours de nom. Voilà. Bon. Mais les week-ends, ces structures-là, elles sont fermées. Et c'est une violence considérable qu'est faite à ces femmes-là, qui se retrouvent avec des enfants qu'elles ne peuvent pas nourrir, qu'elles ne peuvent pas changer. Vous imaginez, c'est des femmes à la rue, elles n'ont même pas d'endroit pour poser leur bagage. Il n'y a pas de consigne. C'est que vous sortez de la mala, donc certaines essayent de cacher leur bagage quand même sous les lits, mais ça, elles peuvent être volées. On ne peut pas mettre les affaires des enfants. Quand elles sont le week-end, pour aller aux toilettes, il n'y a pas de toilettes. Voilà. Alors, s'ils trouvent des gens... soit un centre social qui est ouvert le samedi, soit un grand magasin qui accepte de les voir venir, soit à la médiathèque d'Évreux. Monsieur le maire, vous aviez dit il y a 2 ans, lors d'une réunion électorale, que justement par rapport aux gens qui étaient à la mala, la médiathèque serait ouverte aussi les dimanches à partir de 2019. Donc nous encourageons ces personnes, ces femmes, ces enfants à aller à la médiathèque d'Évreux. Pour aller au chaud, puisqu'il n'y a aucune structure, personne, ni la préfecture, ni la mairie, n'ouvre des structures pour les accueillir pendant la journée, les week-ends. Donc voilà, c'est une immense violence qui est faite à ces familles, à ces femmes avec ces enfants,
et
c'est honteux. Donc c'est vrai que la mala, c'est mieux que rien, c'est mieux que d'être à la rue, mais ce n'est pas suffisant, et ce n'est pas suffisant de précariser autant des personnes qui sont déjà en souffrance. J'espère que j'ai été claire.
Oui, je crois.
Voilà.
Oui, je crois.
Oui, Lise.
Juste un complément d'information sur ce que tu viens de dire. Le collectif a rédigé un courrier dans la foulée qui va être envoyé au nom du collectif à monsieur le préfet et à monsieur le maire.
On peut les nommer avec... monsieur Coudert et monsieur Lefranc.
Voilà.
Parce que c'est à eux que ça s'adresse.
Voilà, on lui demande effectivement un rendez-vous en urgence. On a vu monsieur le préfet il n'y a pas si longtemps, mais on lui redemande un rendez-vous en urgence par rapport à cette problématique, sachant aussi que les associations ont déjà signalé qu'il y avait des possibilités pour aménager des lieux qui sont actuellement inoccupés sur l'agglomération d'Évreux, et que si les associations effectivement se chargeaient de l'aménagement de ces lieux, pouvaient trouver du mobilier dans des conditions extrêmement peu chères, on pourrait trouver des solutions pérennes et qui n'obligeraient pas à ce que ces personnes effectivement se retrouvent à la rue en journée avec des enfants en bas âge.
Mais ils ont peur d'attraper du rhume à cause de l'appel d'air.
C'est ça, on a déjà suggéré tout ça aux autorités, mais pour l'instant, malheureusement, ça ne va pas dans le sens qu'on souhaite. Bon, comme on a commencé en retard, on va toucher à la fin de l'émission. On a juste quelques informations locales à vous donner, là il nous reste 5 minutes. Je voulais quand même, par rapport au chapitre qu'on a développé sur la violence faite aux femmes, vous signaler quand même qu'il y a une structure, c'est important qu'il y ait une structure à Évreux, parce que bien sûr, vous connaissez peut-être, vous qui nous écoutez, des femmes qui sont elles-mêmes victimes de violences dans leur couple ou dans d'autres circonstances, mais enfin généralement c'est plus au niveau du couple ou avec le conjoint. Et donc, il y a une structure à Évreux qui s'appelle La Pause, qui a quelques chambres, pas beaucoup. Là aussi, c'est nettement insuffisant, mais enfin, ça existe. Et qui est une association que l'on connaît, qui fait un travail remarquable avec des travailleurs sociaux et des psychologues pour aider ces femmes, pour faire un suivi. Donc, je vais vous donner simplement les deux numéros de téléphone où on peut les joindre si vous avez des gens qui sont dans une situation un peu dramatique. Donc, c'est le 02 32 39 79 60 ou le 02 32 33 52 76. Je vous les répète, 02 32 39 79 60 ou 02 32 33 52 76. Voilà. Et l'association s'appelle La Pause. Voilà, donc ça c'était important effectivement de vous le signaler aussi comme information concrète. Dans nos actualités du moment, oh ben ça va finalement, on a commencé très en retard et puis il nous reste encore 4 minutes, c'est royal. Je salue Manu qui vient d'arriver pour le laboratoire. Et donc pour vous signaler dans nos informations, je vais arriver à le dire, nos informations locales, on va être très présent sur Évreux dans les semaines qui viennent, puisqu'on a une campagne dont vous avez forcément déjà entendu parler, si vous nous écoutez depuis quelque temps, qui s'appelle les 10 jours pour signer, une grande semaine de mobilisation pour défendre 10 personnes ou 10 groupements de personnes dont les droits sont bafoués, précisant que cette année, en fait, l'accent est mis sur les jeunes et qu'en fait, les 10 personnes que l'on défend ont toutes moins de 30 ans.
Oui.
Et il y a parmi eux, d'ailleurs,
Deux enfants. De mineurs.
Ah, de mineurs, oui. Et bien, parmi les gens qu'on défend, une jeune de moins de 30 ans qui s'appelle Camille Chalut, elle m'excusera si j'ai un peu déformé son nom, je ne l'ai pas sous les yeux, qui est une observatrice pour la Ligue des droits de l'homme et qui doit passer en justice justement parce qu'elle a surveillé le comportement des forces de l'ordre pendant diverses manifestations pendant l'année écoulée. Et ça lui vaut d'être inculpée, effectivement, pour, tenez-vous bien, infraction au code de la route. Donc, donc elle passe en justice prochainement. Donc évidemment, dans la campagne 10 jours pour signer, bah, Amnesty fait signer pour elle. Mais il y a 9 autres cas en Grèce, en Chine, en Afrique, j'ai plus le pays, enfin, etc. Enfin, vous les découvrirez avec nous. Donc on doit être présent si tout va bien. C'est pas encore sûr, mais enfin venez nous voir. Normalement, je pense qu'on y sera le vendredi 6 décembre lors de la Saint-Nicolas. Voilà, on pense avoir un stand. On sera normalement aussi présent le jour de la semaine suivante. On repassera le message à la radio parce qu'on n'a pas encore la date. Mais on pense faire signer au restaurant administratif qui se trouve à côté du conseil départemental. Et puis également, il y a l'antenne jeune du lycée Aristide Briand qui va faire signer pendant toute la semaine. Alors, je ne vous ai pas dit, la campagne commence le 6, donc, et elle se termine le 15 décembre. Et l'antenne jeune va faire signer les pétitions au lycée entre le lundi 9 et le vendredi 13. Donc si vous êtes lycéen à Évreux, vous pourrez aussi venir signer ces pétitions à la sortie du self le midi. Donc voilà, plein de possibilités pour participer à cette campagne. Et l'important, effectivement, c'est de faire avancer les droits humains avec Amnesty. Ça, vous le savez déjà. Sinon, dans nos informations locales, on a une présence au théâtre. Alors, ce n'est pas à Évreux, c'est au théâtre à Louviers. Mais c'est le groupe d'Évreux qui y sera, au Moulin à Louviers. Et c'est avec le Tangram, c'est un partenariat avec le Tangram, et le spectacle s'appelle « Elle, pas princesse, lui, pas héros ». Et ça a lieu à l'ouverture des portes à 16h, c'est un spectacle l'après-midi, c'est le samedi 14 décembre. Ouverture des portes à 16h, c'est un spectacle orienté plus spécifiquement au niveau des lycéens, donc c'est pour ça que c'est l'après-midi. Et la pièce a lieu entre 17h et 18h30. On aura un stand aussi d'information. Donc, elle, pas princesse, lui, pas héros, au théâtre du Moulin à Louviers, le samedi 14 décembre après-midi. Et puis, notre prochaine émission de radio, en espérant qu'on pourra la démarrer à l'heure, que la technique
nous
fera
pas... Mais maintenant, tu as vu le petit bouton vert, là.
Nous fera pas des faux bons, comme tout à l'heure. Donc la prochaine émission de radio, c'est le 17 décembre, le mardi 17 décembre à 19h sur l'antenne de Principe Actif. Voilà, on va laisser la place au laboratoire et on vous souhaite à tous une bonne soirée.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.